C'est Alain Stivinsky qui a le plaisir de vous présenter ce bulletin d'information. Selon le ministère de la Santé, on ne planifie pas d'expérimenter la dévitalisation en Tchéquie, une méthode de traitement des cancers. Dans une lettre ouverte, l'Union des patients avait demandé l'emploi expérimental de cette méthode. D'après le ministère, pour cela, il faudrait que la Tchéquie adopte l'article de l'Association mondiale de la médecine qui permet aux médecins, dans des cas spéciaux, d'employer des méthodes qui n'ont pas été longuement testées. La Chambre des députés a refusé de consacrer une partie de sa séance à l'affaire médiatisée de l'appartement du Premier ministre Stanislav Gross. Au début de la réunion, elle n'a pas adopté le projet du Parti civique démocrate, leader de l'opposition de droite, de mettre la question de l'appartement du chef du gouvernement au programme de sa séance. Le parc technologique, qui devrait être réalisé à Pardubice, non loin de Prague, a déjà suscité l'intérêt de nombreuses sociétés qui occuperaient déjà la moitié de sa superficie. Un projet d'une valeur de 20 millions d'euros, dont 75% serait financé par l'Union européenne, cela grâce au fait que le ministère de l'Éducation nationale vient de donner son accord à la participation de l'université de Pardubice. Le ministère du Travail et des Affaires sociales vient de réagir à la critique du nouveau code du travail selon lequel les écoles supérieures décideraient seules des rémunérations de leurs enseignants. D'après le ministère, les enseignants sont payés par l'État et c'est donc ce dernier qui devrait conserver le droit de décision. L'opérateur belge Belgacom n'a fait qu'une vague proposition dans l'appel d'offres pour la privatisation de l'opérateur tchèque Český Telecom. Cette proposition suffit pourtant pour qu'il participe au second tour de cet appel d'offres. À Prague, mais aussi dans d'autres villes tchèques, le Mardi Gras s'est terminé par un défilé de masques de toutes sortes. Dans la capitale, c'est le défilé du 3e arrondissement qui attire de plus de spectateurs, mais aussi de participants masqués. Les hôtels, pensions ou autres établissements de l'hôtellerie tchèque en montagne sont pleins à craquer. Il n'y a plus une seule place de libre, mais vu les conditions de ski ou d'autres sports d'hiver sur tout le territoire de la République tchèque, les amateurs trouveront facilement où se loger en dehors des stations de ski. Par contre, avec l'épaisse couche de neige et le dégel attendu, les autorités mettent en garde contre les gros risques d'avalanche. Avant de terminer le bulletin, la météo, une météo qui nous prévoit des températures un peu plus élevées et même du dégel en plaine. Le ciel devrait se couvrir pourtant dans les jours à venir, avec des températures autour du zéro. Attention au risque de verglas sur les routes. C'était Alain Stivinsky avec le bulletin d'information sur Radio Prague. Bonne écoute de la suite de notre programme.
Faits et événements en République tchèque. Alexis Rosenzweig.
Merci d'être sur Radio Prague. Des sénateurs lancent une initiative pour réformer le Parti communiste tchèque. La privatisation de Český Telecom se précise. Les nouvelles du centre tchèque de Bruxelles, ce sont les titres qui seront développés aujourd'hui dans votre émission quotidienne. Dans la deuxième partie de notre édition, nous reviendrons sur les problèmes qu'ont les pères de famille tchèques divorcés pour pouvoir rester en contact avec leurs enfants. Et nous terminerons avec du sport et du football, puisque Pavel Nedvěd a été élu meilleur joueur tchèque de l'année 2004. Guillaume Narguet a recueilli les réactions des joueurs de la sélection nationale, dont celle du gardien Petr Čech, qui brille en ce moment dans les buts de Chelsea après avoir joué à Rennes. Il parle donc français. Un mouvement lancé récemment par artistes et politiciens tend à faire réformer le Parti communiste tchèque, seul parti non réformé des anciens pays du bloc de l'Est. Une pétition a été lancée et présentée ce mardi au Sénat, où s'est rendue Magdalena Segertova.
Plusieurs dizaines de journalistes, artistes, écrivains et hommes politiques ont déjà joint leur signature à la pétition intitulée « Abolissons le Parti communiste » et lancée il y a quelques jours seulement par un groupe de personnalités engagées, le metteur en scène et comédien Ladislav Smoliak en tête. Son but n'est pas de dissoudre le Parti communiste de Bohême et de Moravie, mais de le pousser à se réformer, à s'excuser enfin des crimes commis sous le régime totalitaire, à changer de nom, bref, à se transformer en un parti de gauche moderne. La pétition qui s'adresse à tous les citoyens tchèques, son texte est affiché dès ce mardi sur l'Internet, est un moyen de soutenir un projet de modification du code pénal lancé récemment par les sénateurs Martin Majstrik et Jaromír Štětina, conformément auquel la propagation de l'idéologie et des symboles communistes serait illégitime, donc punie par la loi. Ce mardi, lors d'une rencontre avec les journalistes et plusieurs dizaines de personnes persécutées par le régime communiste, les sénateurs ont formulé l'espoir que leur projet de loi trouve un soutien chez les principales formations politiques tchèques, surtout chez les sociaux-démocrates, pour qui les communistes représenteraient le plus grand danger, et qu'il soit adopté par le Parlement avant le 17 novembre prochain. Du siège du Sénat tchèque, Magdalena Segertová pour Radio Prague.
Qui reste en course pour le rachat de Český Telecom? Si le patrimoine immobilier de Stanislav Gross et de son épouse sont au centre de l'intérêt des médias nationaux en ce moment, il est un feuilleton économique qui anime le pays depuis plus longtemps, celui de la privatisation de l'opérateur de télécommunications historique, Český Telecom. Parfum de scandale en moins, ce feuilleton-là draine lui aussi son lot de spéculations. Aujourd'hui, même si on ne connaît toujours pas le futur acquéreur de la part majoritaire de l'État dans Český Telecom, on sait en revanche quels sont les 5 candidats entre lesquels cela va se jouer. Et contrairement à ce que l'on attendait, France Télécom n'en fait pas partie. L'opérateur helvétique Swisscom, le belge Belgacom et l'espagnol Telefonica restent quant à eux dans la course avec 2 consortiums financiers. De toutes les offres provisoires déposées avant la date limite du 3 février dernier, la plus généreuse a été faite par l'un de ces consortiums, composé des groupes PPF et JT, alliés au petit opérateur Inway. PPF est l'un des groupes financiers les plus puissants de la République tchèque. Son président, Peter Kellner, réputé être l'homme le plus riche du pays, a proposé 2,4 millions d'euros. Mais si cette offre dépasse celle faite par les opérateurs étrangers, elle n'a pas encore convaincu la commission chargée de la deuxième tentative de cette privatisation, en raison du manque de garantie apportée par Inway. Selon le calendrier approuvé en décembre par le gouvernement, la date butoir pour soumettre les offres définitives est le 29 mars prochain. Dès ce mercredi, le cabinet du Premier ministre Stanislav Gross devrait se pencher sur les offres préalables et décider de la poursuite de l'appel d'offres ou de la vente des actions en bourse. Český Telecom, rappelons-le, possède encore 80% du marché tchèque de la téléphonie fixe et 44% du marché très dynamique de la téléphonie mobile. Et puisque nous parlions il y a un instant de la téléphonie mobile, signalons qu'un objet insolite vient de faire son apparition en République tchèque et qu'il pourrait bien conquérir le monde. Yablotron, une société de Yablonets en Bohême du Nord, vient de commercialiser le plus gros téléphone mobile du monde. Et oui, vous avez bien entendu, le plus gros téléphone portable de la planète. Rien de révolutionnaire dans son design. Le téléphone se ressemble à s'y méprendre à un téléphone fixe, sauf qu'il n'a pas de fil et fonctionne avec cette fameuse carte SIM qui doit être insérée dans tous les portables. Mais l'idée séduit surtout grâce à la facilité d'emploi de l'appareil. Fini les petits écrans, fini aussi les claviers minuscules. Passer un coup de fil ou écrire un texto, un SMS avec le clavier spécial du Yablotron devient un jeu d'enfant. Les enfants, vous l'aurez compris, ne sont pas la cible principale pour ce nouveau produit, destiné en priorité aux plus âgés, mais pas seulement. Depuis peu, Yablotron est l'objet de toutes les attentions. Le déclic est venu de la foire de Hong Kong, pendant laquelle 100 000 pièces ont été commandées. Puis un reportage de la chaîne américaine CNN a contribué à la popularité du produit. Et aujourd'hui, les opérateurs de téléphonie mobile voient même dans ce portable de salon la possibilité de faire concurrence aux opérateurs de téléphonie fixe. Une exposition intitulée VEDEM a été inaugurée lundi au centre tchèque de Bruxelles. Son directeur, Pavel Černoch, a parlé de l'événement avec Jarka Gisubelova.
L'Holocauste et la fin de la Deuxième Guerre mondiale est un grand thème pour beaucoup des événements qu'on organise en centre tchèque à Bruxelles. Lundi, le 7 février, on ouvre une exposition du mémorial Térésine sur un journal des enfants à Térésine qui s'appelle VEDEM, ça veut dire « Nous sommes les premiers », et le rédacteur de chef, un garçon qui s'appelle Peter Ginz, il était l'auteur de dessins, qui est allé en espace avec la Special Columbia et le premier astronaute israélien, Ilan Ramon, qui est décédé tragiquement dans l'incident. En fait, la présentation de VEDEM, les enfants de Térésine, est une contribution tchèque à ce débat contre oublier l'Holocauste. Par hasard, le journal de Peter Ginz s'était retrouvé récemment et la sœur qui a survécu l'Holocauste, sa sœur a publié le livre, nous allons présenter le livre aussi, le journal de Peter Ginz, qui est un document très fort, comparable avec le journal de Anne Frank.
Vous avez aussi un projet très intéressant qui s'appelle Voisins disparus.
Nous avons un film sur la recherche des racines d'une petite ville en Bohème de l'Ouest, dans les forêts Chumova. C'est une documentation sur des enfants qui cherchent les traces des voisins disparus, des gens qui ont habité dans cette petite ville et qui sont disparus. C'est un document très fort sur cette question des disparus par les yeux des enfants qui se demandent mais pourquoi les gens ils sont pas là. Je veux utiliser ça pour un début d'une discussion de la significance de l'Holocauste, de ce chapitre tragique dans l'histoire européenne, et discuter sur des questions qui sont actuelles encore aujourd'hui, la xénophobie, le racisme, le génocide qu'on a vu dans l'Europe sud-ouest. C'est pas disparu de notre vie quotidienne en Europe.
Qui sont les invités pour cette soirée?
Nous nous adressons bien sûr au public général, mais en tout cas nous invitons aussi les gens de la communauté juive ici à Bruxelles, des amis de la République tchèque. Nous avons beaucoup aussi des Tchèques et des jeunes fonctionnaires des institutions européennes. Ça veut dire notre public est très large, très cosmopolite et en tout cas très intéressant.
Après ce détour par Bruxelles, retour en République tchèque où près de 20 000 couples divorcent chaque année. C'est l'un des taux les plus élevés de l'Union européenne. Ces derniers mois, les journaux et magazines tchèques ont évoqué à maintes reprises le cas de ces pères qui se battent pour obtenir la garde de leurs enfants à parts égales avec les mères, notamment suite aux actions publiques menées par ces pères qui ont porté plainte à la Cour européenne des droits de l'homme. Des détails avec Anna Kubishta qui a interrogé Lubos Patera de l'association Justice pour les enfants.
Це зруження функціонує від року 19 в Ресаче, а залишились ми його.
Notre association fonctionne depuis 1996 et avec des amis, nous l'avons fondée parce que nous sommes arrivés à la conclusion qu'au vu de notre situation familiale difficile, il fallait rassembler nos forces car les tribunaux de la République tchèque et les autres organes de l'État ne nous permettaient pas ou ne nous aidaient pas à remplir nos liens familiaux envers nos enfants.
En janvier, la Cour constitutionnelle de la République tchèque a statué au bénéfice d'un père qui avait porté plainte contre le verdict qui le confinait dans le rôle du parent des week-ends, un pas en avant en faveur de la reconnaissance du rôle du père dans l'éducation des enfants. Les cas de divorce dans la douleur, parfois accompagnés du syndrome d'aliénation parentale, où un des parents monte son enfant contre l'autre parent, sont souvent l'occasion de défouloirs pendant lesquels l'enfant reste un de ceux à en pâtir le plus. Mais le cas du père cantonné à une éducation intermittente est aussi une constante. Et si la garde en alternance est conseillée, elle n'est que peu appliquée en réalité. Lubos Patera est contre l'affirmation selon laquelle la majorité des pères ne souhaiteraient guère la garde de leurs enfants. Devant la prééminence de décisions de justice prononcées exclusivement en faveur des mères, ces pères ont choisi d'aller plus loin.
Nous avons décidé de nous adresser à des institutions internationales. C'est pourquoi nous avons déposé des plaintes individuelles à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Et en même temps, nous avons fait publier nos plaintes. À deux reprises déjà, nous avons invité d'autres citoyens tchèques, d'autres parents, notamment des pères d'enfants mineurs, pour qu'eux aussi élaborent leurs propres plaintes et les déposent également. Nous avons déjà provoqué deux vagues de plaintes et en préparons une troisième. Il y a déjà une bonne dizaine de plaintes de parents tchèques à Strasbourg. Il est tout à fait remarquable que la Cour européenne des droits de l'homme s'occupe en priorité des plaintes déposées par les pères tchèques. Cela signifie qu'elle a saisi les suffisances de la juridiction tchèque dans ce domaine.
Demandez à Lubos Patera en quoi la République tchèque est éculée dans l'Union européenne.
La spécificité réside dans le fait qu'il y a une discrimination ouverte dans l'éducation des enfants mineurs après divorce, le non-respect du droit. Le problème n'est pas seulement qu'on ne compte les enfants au père après un divorce ou seulement dans une quantité de cas négligeable, mais que les tribunaux ne respectent même pas leur propre verdict lorsque eux-mêmes ont décidé de rétablir le lien entre le père et l'enfant après un divorce. En gros, même si après des années de procédure judiciaire, le père obtient au moins le droit de voir son enfant le week-end, il suffit que la mère ne respecte pas ce verdict. Et les juges, ou plutôt les femmes juges, ne font même pas respecter leur jugement.
Et Guillaume Narguet nous a déjà rejoint dans ce studio pour nous parler de football et de Pavel Nedvěd, qui a été élu meilleur footballeur tchèque de l'année 2004 lundi soir à Prague à la suite d'un vote de joueurs professionnels et entraîneurs tchèques. Sur le podium, le milieu de terrain de la Juventus Turin a devancé Milan Baroš, meilleur buteur de l'Euro, et Peter Cech, l'ancien gardien de but du Stade Rennais, qui fait aujourd'hui les beaux jours des Blues de Chelsea. La parole est à toi, Guillaume.
Oui, Alexis. Déjà vainqueur en 1998, 2000 et 2003, Pavel Nedvěd a donc été plébiscité par ses pairs au pays pour la quatrième fois de sa carrière. Au total, 325 joueurs et 73 entraîneurs ont pris part au vote de la 40e édition de l'épreuve. Désormais, il ne manque donc plus qu'un seul titre au Ballon d'Or 2003 pour rejoindre au palmarès le légendaire gardien Ivo Victor, champion d'Europe avec la Tchécoslovaquie en 1976. Champion d'Europe, Pavel Nedvěd ne le sera lui certainement jamais. En juin dernier, au Portugal, il aura pourtant été le capitaine exemplaire d'une sélection aux jeux séduisants dont le rêve de titre s'est envolé contre toute attente en demi-finale face à la Grèce. Depuis, la République tchèque a entamé son groupe de qualification pour la prochaine Coupe du Monde en Allemagne en apprenant à se passer de son indiscutable leader. Handicapé par une blessure au genou, ce forçat du travail, que la presse italienne qualifie parfois de stakhanoviste ou encore de furie tchèque, a en effet décidé à 32 ans et après 83 sélections de mettre un terme à sa carrière internationale pour se consacrer exclusivement à son club. Un choix qui, 6 mois après son annonce, reste toujours mal compris par les supporters et la presse tchèque. Cette dernière est donc revenue à la charge ce lundi à l'issue de la cérémonie pour savoir si sa décision était irrévocable. Et si Pavel Nedvěd a admis que l'éventualité de participer à la Coupe du Monde restait une extraordinaire motivation pour ses dernières années de carrière, il s'est cependant montré très évasif dans ses réponses sur un éventuel retour en sélection.
J'en sais rien et je ne vous donnerai pas de réponse aujourd'hui. Je suis blessé en ce moment et cela n'a donc aucun sens d'en discuter. Je me suis déjà exprimé au sujet de l'équipe nationale. Un joueur de football qui renonce au maillot de l'équipe nationale et à son rêve de participer à une Coupe du Monde doit avoir de bonnes raisons. Et j'ai les miennes. Pour le reste, il ne s'agit que de spéculation. Et pour l'instant, ma position n'a pas évolué.
Malgré ce malentendu avec le grand public, Pavel Nedvěd bénéficie toujours de la reconnaissance de ses anciens coéquipiers au sein de la sélection, comme celle du gardien Petr Cech.
C'est le plus grand favori pour moi, c'est Pavel, parce qu'il a fait une très très grande saison. Il a fait un super héros et il était magnifique pour la Juve.
Est-il possible de le remplacer dans l'équipe nationale s'il ne revient pas?
Bon, c'est toujours difficile de remplacer ce type de joueur qui a grand cœur, qui veut toujours gagner, qui a un esprit gagnant, qui est vraiment un leader de l'équipe. Et voilà, il était en numéro 1 l'année dernière dans l'Europe et voilà, c'est toujours difficile de le replacer, mais j'espère qu'on a beaucoup de qualité derrière. Au moins qu'on peut faire une équipe qui sera forte comme l'année dernière.
C'est déjà la fin de notre émission. Dans un instant, vous retrouvez votre rubrique DX.
60 Radio Prague. Alain Slivinski.
Alain Slivinski est heureux de vous accueillir à l'écoute de l'émission destinée aux radio-écouteurs, à tous les amateurs des ondes courtes et de l'écoute des émissions internationales. Le micro est aujourd'hui à Roland Paget du club Amitié Radio de Créteil.
Chers amis de Radio Prague, bonjour. Quelques minutes comme chaque mois ensemble pour un rapide tour d'horizon de l'actualité de la radiodiffusion internationale. Tout d'abord avec des bonnes, des mauvaises nouvelles. Dans les mauvaises, nous savons que plusieurs stations envisageraient de fermer, voire de réduire leur programmation à la prochaine saison, c'est-à-dire à la fin du mois de mars. Pour Radio Vlaanderen International, c'est bien de très probable certitude que les émissions diffusées en ondes courtes soient interrompues, malgré toutes les manifestations, les protestations, que ce soit en Belgique, que ce soit hors de Belgique, mais il n'est pas encore trop tard pour continuer à manifester pour soutenir l'avenir des émissions de la radio belge de la communauté néerlandophone. En ce qui concerne Radio Slovaquie Internationale, pour le moment, pas de nouvelles particulières. Nous attendons donc toujours. Un financement de la radio slovaque complémentaire a été annoncé. Souhaitons simplement que la radio nationale, dont dépend la radio Slovaquie Internationale, n'oublie pas la diffusion vers l'étranger. En ce qui concerne une rumeur pour la cessation des émissions vers l'étranger de la radio italienne, la RAI, c'est une rumeur, mais il ne semble pas qu'elle soit fondée. Quant à l'Allemagne, des réductions sont annoncées pour la prochaine saison. En ce qui concerne les émissions en langue française, pour le moment, elles ne seraient pas touchées. Des émissions qui sont essentiellement diffusées vers l'Afrique, bien entendu, mais très fortement et correctement audibles également en Europe, la Deutsche Welle présentant des programmes diversifiés et, comme beaucoup d'autres radiodiffuseurs internationaux, de qualité et qui nous permettent d'avoir une actualité de l'Allemagne, le point de vue de l'Allemagne sur l'actualité mondiale et puis la découverte du pays. En ce qui concerne les relais, nous voyons que de plus en plus de radiodiffuseurs poursuivent, que ce soit pour la langue française ou pour d'autres langues, la recherche de relais de proximité. Les ondes moyennes semblent être maintenant, depuis quelque temps, de plus en plus privilégiées, notamment par Radio Vatican, qui depuis peu utilise deux émetteurs en France, dans le sud de la France, pour diffuser vers l'Europe de l'Est et également l'Allemagne. Radio Chine Internationale poursuit son développement de diffusion, que ce soit en ondes courtes ou via des accords, et notamment avec World Radio Network, des accords signés récemment pour permettre de développer encore la diffusion par différents moyens, que ce soit l'Internet, le satellite ou bien même encore, et heureusement, l'onde courte. Voilà donc un petit peu ce bref tour d'horizon. Et puisque nous parlons d'utilisation de plus en plus fréquente de relais de proximité, cela m'amène, puisque du 6 au 9 octobre se tient à Paris le salon Le Radio et le consortium DRM, Digital Radio Mondial, qui travaille sur le développement de la numérisation de l'AM, donc les ondes moyennes et les ondes courtes, entre autres, eh bien le consortium DRM était présent à ce salon. Et bien entendu, nous espérons vous en faire des échos dans une prochaine intervention sur ce que nous avons pu voir à ce salon, puisqu'effectivement, nous avons depuis le début soutenu le développement de la numérisation de l'onde courte qui amène technologiquement et surtout en qualité de réception un plus. Et peut-être la relation peut être faite, le fait de voir un certain nombre de radiodiffuseurs utiliser de plus en plus des relais de proximité, sachant qu'un certain nombre passeront probablement, nous l'espérons, au numérique, et ce qui amènera une qualité de réception. Bien entendu, au détriment un peu peut-être de notre activité de DX, qui est la recherche des stations lointaines, la recherche de quelques performances, mais pour les radiodiffuseurs internationaux, l'essentiel est de pouvoir être bien entendu, correctement, régulièrement, pour un auditoire de plus en plus vaste, et c'est un peu la finalité tout de même de la diffusion en ondes courtes. Enfin, pour terminer, le Club Amitié Radio donne rendez-vous à tous les auditeurs de Radio Prague au 17e Salon International Radio Communication qui se tiendra le samedi 5 et le dimanche 6 mars à Clermont-de-l'Oise, dans le département de l'Oise, dans la région nord, au nord de Paris, à la salle Pommerie, où il y aura des présentations de matériel neuf d'occasion, des démonstrations, la foire à la brocante. Et bien entendu, nous serons très heureux de vous retrouver sur le stand du Club Amitié Radio. Il est temps de repasser le micro à nos amis de Prague. Je vous souhaite une très bonne écoute, de bonnes conditions de réception. N'oubliez pas toujours d'écrire à nos amis des services français. Votre courrier est important. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt et je vous souhaite mes meilleures salutations radiophoniques.
73 de Radio Prague, c'est maintenant terminé. C'est la fin aussi des émissions en langue française de Radio Prague.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9880 kilohertz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kilohertz, at 1800 hours on 5930 and 9415 kilohertz, and at 2100 hours on 5930 and 9430 kilohertz. Listeners in Northern Europe can hear us at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz. In West Africa, you can hear us at 1000 hours on 21745 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, and at 2230 hours on 5930 and 7345 kHz. In East Africa, tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 1400 hours on 21745 kHz. Listeners in the Middle East can tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz. In Southern Asia, you can listen at 1000 hours on 21745 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Eastern Asia can tune in at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Southwest Asia can tune in at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Australia, tune in at 1800 hours on 5930.